chien va mourir. Un jour, il a plus été capable de monter dans le camion tout seul. Il a même pas fait semblant d'essayer. Il s'est assis devant le marchepied et il a attendu que je vienne. « Oh, que je lui ai fait ! Tu bouges tes fesses, mon gros-père !» Mais à la façon qu'il m'a regardé, j'ai baissé la tête. Je l'ai porté jusqu'à sa place et il s'est couché comme si de rien n'était. Mais moi, ce jour-là, j'ai galé en démarrant. Y a que nous dans la salle d'attente. De le tenir comme ça si fort mais sans trop le serrer, ça commence à me lancer dans l'épaule. Je me rapproche de la fenêtre pour lui faire voir la vue et même là, même maintenant, je vois bien que ça intéresse. Ste commère. Je lui caresse la tête avec mon menton et je lui dis tout bas. Comment que je vais faire sans toi, hein? Comment que je vais faire? Il ferme les yeux. Avant de venir ici, j'ai téléphoné à mon patron. Je lui dis que je serai en retard pour ma tournée, mais bon, que je rattraperai. Que je rattrape toujours. Qu'il le sait depuis le temps. C'est quoi? Un pépin, monsieur Rico. Ah, c'est pas mécanique, au moins. Non, non, c'est mon chien. Ah, qu'est-ce qu'il a encore, ton corneau? Il est resté coincé dans le cul d'une poule, cette fois? Non, c'est pas ça, c'est que... Faut que j'emmène au vétérinaire, vu que c'est la fin, là. Ben, la fin de quoi? La fin de sa vie. Et comme ils ouvrent pas avant 9h, le temps que ça se fasse et tout, je serai en retard au dépôt. C'est pour ça que je vous appelle. Oh, ben merde, alors. Ben, désolé, mon Jeannot. On l'aimait bien, ton chien. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Rien. Il lui est rien arrivé. Il est vieux. Ben, mince, alors. Ça va être encore un coup dur pour toi, cette affaire-là. Ça fait combien de temps que tu l'as mis dans le bahut? Ça fait une paye. Et qu'est-ce que tu devais faire ce matin? Gare au Nord. De quoi? De la cam adhérée? Oui. Bon, écoute, Jeannot, tu sais quoi? Tu la prends ta journée, tu la prends, on se débrouillera. Bah, vous pouvez pas sans moi. Il y a le petit jeune qui est en congé et Gérard, il a son stage à point. Ah, mais oui, c'est vrai. Mais... Non, mais on va se démerder quand même, va. C'est moi qui vais te la faire. Ça va me dérouiller un peu. Ça fait tellement longtemps, je suis même sûr d'avoir les bras encore assez longs pour tenir un volant. Vous êtes sûr? Mais oui, t'en fais pas. Prends ta journée, je te dis. En septembre de l'année passée, quand il y a eu les barrages et que les grèves étaient si dures, on m'a insulté parce que je voulais pas me joindre aux autres. On m'a demandé si j'aimais ça, de sucer la bite au patron. Je me souviens, c'est Valdel qui avait dit ça. Et encore aujourd'hui, j'y repense souvent à cette phrase. Mais je voulais pas y aller. Je voulais pas que ma femme reste toute seule la nuit. Et la vérité, c'est que j'y croyais plus. C'était fini. C'était trop tard. Je leur disais aux collègues que le vieux Rico était autant dans la mouise que nous et que je voulais pas aller faire le gugus au poste à péage pendant que les gars de chez Géodis ou de chez Maury nous récupéraient nos marchés. En plus, et je le dis comme je le pense, je l'ai toujours bien considéré, cet homme. Il a toujours été correct comme taulier. Et encore aujourd'hui, avec mon chien qui va mourir. Il est correct. Je dis mon chien parce qu'il a pas de nom, sinon bien sûr, je dirais autrement. C'était pour moi l'aimer. Et puis là encore, bah, c'est comme avec tout le reste. Au bout du compte, je me suis fait couillonner quand même. Je l'ai récupéré une nuit en plein mois d'août alors que je remontais d'Orléans. C'était sur la Nationale 20, un peu avant Étampes. Je voulais plus vivre. Ludovic nous avait quittés quelques mois plus tôt, et si j'étais toujours de ce monde à transporter du matériel et des pièces détachées, c'est parce que j'avais calculé qu'il me fallait encore 8 années d'activité pour que ma femme touche une retraite à peu près potable. Dans ce temps-là, ma cabine, c'était ma geôle. Je m'étais même payé un petit calendrier avec les jours qu'on pèle les uns après les autres pour que ça soit bien clair dans ma tête. 8 ans que je me répétais. 8 ans. 2920 jours et bonsoir la compagnie. J'écoutais plus la radio. Je convoyais plus jamais personne. J'avais perdu le goût de causer et quand je rentrais chez moi, c'était pour allumer la télé. Ma femme, elle était déjà couchée. Il faut dire qu'elle prenait beaucoup de cachets à l'époque. Je fumais. Je fumais 2 paquets de gauloises par jour et je pensais à mon fils mort. Je ne dormais presque plus. Je terminais jamais mes plateaux. La nourriture, je la jetais et je voulais que tout s'arrête. Ou alors que tout reparte en arrière. Pour faire autrement. Pour que sa mère souffre moins. Pour qu'elle lâche enfin ses bons dieux de balai. Je voulais retourner à un moment où ça aurait été encore possible pour elle de ficher le camp de chez nous. Je serrais tellement les mâchoires qu'un soir, je me suis cassé une dent rien qu'en ruminant. Le médecin du travail que la société m'avait forcé à aller voir pour prendre des antidépresseurs, Rico avait peur que je fasse une connerie dans un de ses camions à lui. M'avait dit pendant que je me rhabillais, « Écoutez, je ne sais pas exactement ce qui va vous tuer. Je ne sais pas si c'est le chagrin, les cigarettes ou le fait que vous ne vous nourrissiez plus correctement depuis des mois, mais ce qui est sûr, c'est que si vous restez dans l'état où vous êtes aujourd'hui, eh bien soyez rassuré, monsieur Monatti, soyez rassuré. Vous n'en avez plus pour très longtemps. J'avais rien répondu. Il me fallait ce papier pour Dany, la secrétaire. Alors je l'ai laissé dire et après je suis parti. J'ai acheté les médicaments pour que tout soit en ordre avec la sécurité sociale et les assurances. Et puis j'ai jeté les boîtes à la poubelle. J'en voulais pas. Et ma femme, j'avais peur qu'elle se finisse avec. De toute façon, c'était perdu d'avance. Et puis les médecins, j'en avais eu ma dose. Je ne pouvais plus les voir. La porte s'ouvre. C'est à nous. Je dis que je suis venu pour faire piquer mon chien. Le vétérinaire me demande si je veux rester. Je réponds que oui, et il s'en va dans une autre pièce. Il revient avec une seringue remplie d'un liquide rose. Il m'explique que l'animal ne va pas souffrir, que pour lui, ça sera comme de s'endormir. Et ouais, te fatigue pas, bonhomme, j'ai envie de lui répondre. Te fatigue pas. J'ai mon gamin aussi qui est parti avant moi, alors tu sais, te fatigue pas. Je me suis mis à fumer comme un pompier, et ma femme, elle a plus jamais arrêté de nettoyer. Du matin jusqu'au soir et du lundi jusqu'à celui d'après, elle a eu plus que ça en tête, le ménage. Ça a commencé en revenant du cimetière. On avait de la famille, des cousins de son côté à elle qui étaient remontés du Poitou et la dernière bouchée avalée, elle les a tous fichus dehors. Je croyais que c'était pour se retrouver enfin au calme, mais non. Elle a attrapé son tablier et elle s'est ficelée dedans. De ce jour-là, elle l'a plus quitté. Au début, je pensais c'est normal, elle s'occupe. Moi, je cause moins et elle s'agite. Chacun fait comme il peut avec sa peine. Ça passera. Et je me suis trompé. Il n'y a rien qui est passé. Aujourd'hui, chez nous, on peut lécher le parterre si on veut. Le parterre, les murs, le paillasson, les marches et même les sanitaires. Ça craint rien. Il y a tout qui est confit dans la javel. J'ai pas encore fini de saucer mon assiette, qu'elle est déjà en train de la passer sous l'eau, et si par malheur je pose mon couteau sur la table, je vois bien qu'elle se retient de me faire une réflexion. Je me déchausse toujours avant d'entrer, et même mes savates, j'entends qu'ils se les cognent l'une contre l'autre sitôt que j'ai le dos tourné. Un soir, qu'elle est encore à quatre pattes à frotter les joints du carrelage, je me suis énervé. « Mais arrête avec ça, bon sang, arrête, Nadine, arrête, tu vas me rendre fou à la fin !» Elle m'a regardé sans répondre. Et elle s'est remise à gratter. Je lui ai arraché l'éponge des mains et je l'ai balancé à l'autre bout de la pièce. « Arrête, je te dis !» J'avais presque envie de la tuer. Elle s'est redressée, elle a récupéré son éponge et elle a recommencé. À partir de ce jour-là, j'ai dormi au sous-sol et quand j'ai ramené le chien, je lui ai même pas laissé le temps de réagir. « Il vivra en bas, il ne montera pas, tu le verras jamais. » Je le pendrai dans le camion avec moi. Souvent, des milliers de fois même, j'ai voulu l'attraper, la serrer dans mes bras ou la secouer comme une poupée et la supplier d'arrêter tout ça. La supplier, lui dire que j'étais là, moi aussi, et que j'étais aussi malheureux qu'elle. Mais ça n'a jamais été possible. Il y avait toujours un aspirateur ou un panier de linge sale entre nous deux. Des fois, j'avais pas envie d'aller me coucher tout seul. Des fois, je traînais, je buvais et je m'endormais devant la télé. J'attendais qu'elle vienne me chercher. Mais elle n'est jamais venue. Et je finissais par me faire une raison. Je remettais les coussins en place et je redescendais au sous-sol en me cassant à moitié la gueule dans les escaliers. Quand tout était si propre qu'elle n'arrivait plus à débusquer la moindre poussière, elle a été acheter un karcher et elle s'est mise à nettoyer les murs et toutes les maçonneries extérieures. Le voisin qui est dans le bâtiment a eu beau la prévenir qu'elle allait bousiller le crépi, elle continue. Le dimanche, elle laisse sa maison tranquille. Le dimanche, elle prend ses chiffons et tout son barda et elle s'en va au cimetière. Elle n'a pas toujours été comme ça. Moi, je suis tombé amoureux d'elle parce qu'elle me mettait de bonne humeur. Mon père, il me disait toujours « Oh Nanny, tu as moglie e un usignolo. Ta femme, c'est un petit oiseau qui chante. » Au début qu'on était ensemble, je vous prie de croire que le ménage, ça la perturbait pas de trop. Oh que non! Je roulais beaucoup trop vite quand j'ai vu mon chien pour la première fois. Et il faut dire que les mouchards étaient pas perfectionnés comme maintenant. Et puis il y avait moins de radars. Et puis je me foutais de tout aussi. Je conduisais un Scania 360, un des derniers qu'on ait eu, je me souviens. Il devait être dans les 2 heures du matin et j'étais tellement fatigué que j'avais laissé la radio brailler pour me tenir éveillé. D'abord, j'ai vu que ses yeux, deux points jaunes dans le balai des phares. Il traversait la route et je m'étais pas mal déporté pour l'éviter. J'étais en colère. En colère contre lui parce qu'il m'avait fait peur et aussi contre moi parce que je roulais comme un salopard. D'un, je n'avais pas allé si vite. De deux, c'est un miracle que le bas-côté soit net sans quoi j'aurais tout couché sur mon passage. J'étais pas fier. J'ai continué à m'assaisonner comme ça pendant plusieurs centaines de mètres en jurant comme un mauvais routier. Et puis je me suis demandé ce qu'il fichait là, ce chien, à 2 heures du matin, sur une nationale, en plein mois d'août. Encore un qui allait pas voir la mer. Des chiens miséreux, j'en avais vu des colonies depuis que je faisais le ruban. Des blessés, des charognes, des attachés, des fous, des perdus. Des qui boitaient et d'autres qui couraient après les voitures. Mais je m'étais jamais arrêté, bien sûr. Alors, pourquoi celui-là? Je ne sais pas. Le temps que je me décide, j'étais déjà loin. J'ai roulé encore un peu à la recherche d'un endroit où faire demi-tour, mais comme c'était trop serré, j'ai fait la manœuvre la plus couillon de toute ma carrière. J'ai stoppé la bécane là, en plein milieu de la chaussée. J'ai allumé mes feux de détresse et je suis parti à la recherche de cette bestiau. La mort peut pas gagner toujours. C'était la première fois que j'avais une idée dans la tête depuis le départ du petit. La première fois que je prenais une décision qui me concernait en propre. J'y croyais pas trop. J'ai marché longtemps dans le noir, derrière la glissière de sécurité quand il y en avait une, entre les herbes folles et toutes les saloperies que les gens balancent dans la nature. Les canettes, les paquets de cigarettes, les emballages en plastique et les bouteilles de pisse de mes collègues trop feignants ou trop à la bourre pour prendre le temps de s'arrêter 5 minutes. Je guettais la lune derrière les nuages et j'entendais des cris de chouette ou de je ne sais quoi au loin. J'étais en chemisette et je commençais à sentir le froid. Je me disais, s'il est encore là, je le prends. Mais si je le vois pas de la route, je laisse tomber. Le bahut arrêté plein phare là-bas, c'était pas bien. Et quand je suis arrivé dans ce tournant qui avait failli nous causer tellement d'ennuis à tous les deux, je l'ai vu. Il était assis sur le bord de la route et il regardait dans ma direction. Bon, que je lui ai fait. Tu viens? Il respire mal. On voit bien qu'il souffre. Je lui dis des choses gentilles en caressant sa ligne blanche entre les yeux. Avant même que l'aiguille soit ressortie, je sens le poids de sa tête qui roule le long de mon bras et sa truffe sèche qui s'écrase dans ma paume. Le vétérinaire me demande si je préfère qu'il soit incinéré ou si je laisse partir l'écarissage. Je le prends avec moi, je réponds. Attention, il y a des règles à respecter. J'ai levé la main. Il n'a pas été plus loin. J'ai eu vraiment du mal à remplir le chèque. Les lignes dansaient, je me rappelais plus de quel jour on était. Je l'emmaillotais dans mon blouson et je l'ai reposé sur sa couverture à sa place de d'habitude. Avec ma femme, on voulait un autre enfant pour que le petit reste pas tout seul, mais on n'a pas su le faire. On a eu beau s'appliquer, on a eu beau essayer d'en rigoler, de se payer le restaurant, de boire des coups, de compter les jours, d'inventer des jeux et tout ça. Tous les mois, elle avait mal au ventre et tous les mois, je la voyais qui perdait encore un peu plus de sa confiance en nous. Sa sœur, elle lui disait d'aller voir un docteur pour suivre un traitement. Mais moi, j'étais contre. Je lui rappelais ce qu'elle savait déjà, que le petit est bienvenu sans rien, lui, qui n'avait pas à se détraquer la santé avec des hormones et des piqûres en plus finir. Maintenant, avec tout ce qu'on entend, avec les catastrophes nucléaires, les OGM, la vache folle et toutes les saloperies qui nous font bouffer, je regrette de lui avoir dit tout ça. Je regrette. Son organisme, il n'aurait pas été plus détraqué que celui d'une autre. De toute façon, le temps qu'on se décide, Ludovic a eu ses premières crises et de ce jour-là, on n'a plus songé à avoir un autre gamin. De ce jour-là, on n'a plus jamais fait de projet. Il n'avait pas 2 ans et il s'est mis à tousser. Le jour, la nuit, debout, assis, à table, allongé ou devant ses dessins animés, il toussait. Il toussait et il s'étouffait. Sa mère est devenue silencieuse. Elle guettait. Elle faisait que ça, comme un animal, que de tendre l'oreille, de guetter son souffle et de montrer les crocs. Elle courait les salles d'attente avec son gosse sous le bras. Elle posait des jours, elle montait à Paris, Esperdée dans le métro, elle laissait toutes ses économies au chauffeur de taxi et elle voyait des tas de spécialistes qui la faisaient attendre de plus en plus longtemps et qui étaient de plus en plus chers. Et le pire, c'est qu'elle continuait de se faire belle à chaque coup. Des fois qu'elle allait enfin tomber sur celui qui lui sauverait son petit bonhomme. C'est un enfant qui a beaucoup manqué l'école. Et elle aussi. Elle y a perdu. Elle avait une bonne place. Elle était appréciée dans son travail et elle s'entendait bien avec ses collègues. Mais au bout d'un moment, ils l'ont convoquée quand même. Ils l'ont appelée pour lui faire signer une sortie convenable. Elle disait qu'elle était soulagée. Mais ce soir-là, elle n'a rien pu manger. C'était injuste, qu'elle répétait tout ça. C'était injuste. Elle a cherché des causes d'allergie. Elle a changé la moquette, la literie, les rideaux. Elle l'a privée de peluches, de parcs, de toboggans, de petits copains, de caresser les bêtes, de boire du lait, de manger des noisettes, de tout. De tout ce que les gamins aiment le plus. Elle faisait que ça d'abord. L'emmerder. L'emmerder pour le sauver. Le jour, elle veillait sur lui et la nuit, elle écoutait sa respiration. L'asthme. Je me souviens d'un soir dans la salle de bain. Je me lavais les dents pendant qu'elle se démaquillait. Regarde toutes ces rides, qu'elle gémissait. Regarde tous ces cheveux blancs. Chaque jour, je suis plus vieille que celui d'avant. Chaque nuit, je vieillis plus vite que toutes les autres filles de mon âge. Je suis fatiguée. Tellement, tellement fatiguée. J'avais rien répondu à cause du dentifrice. J'avais juste haussé les épaules façon de dire connerie. Connerie de bonne femme. T'es belle. Pourtant, c'était vrai. Elle avait maigri. Son visage avait changé. Tout en elle était moins doux. Nous nous prenions moins souvent et en gardant la porte toujours ouverte. Je roule. Je ne sais pas où je vais enterrer mon chien. Ce ratier, ce gueulard, ce petit bout de bâtard, ce camarade qui m'avait gardé en vie si longtemps et qui m'avait si bien tenu compagnie, qui aimait la voix de Dalida, qui avait peur de l'orage, qui me repérait un lapin à plus de 100 mètres et qui dormait la tête toujours posée sur ma cuisse. Oui, ce gredin-là, je ne sais pas encore où c'est que je vais me le planquer. Grâce à lui, j'ai quasiment arrêté de fumer. Faut dire que lui aussi, il s'était mis à éternuer, ce salopio. Je sais bien qu'il se payait ma tête, vu qu'il attendait pas toujours que je les allume pour faire son cinéma, mais bon. Ça me rappelait trop de mauvais souvenirs. Alors j'attendais l'épouse. J'étais plus à m'énerver en fonction de la fermeture des bureaux de tabac, des stationnements, du prix que ça me coûtait, de ma monnaie et tout ça. J'ai grossi. Et j'étais plus facilement accommodé par l'odeur de mes mains quand elle sentait le gasoil ou quand on longeait des champs de colza. Mais ça m'a fait beaucoup de bien, cette histoire-là. Beaucoup, beaucoup de bien. Cette preuve, tout à coup, qu'il me reste encore la possibilité d'être un peu plus libre que ce que je croyais être. Je m'y attendais pas. Grâce à lui, je me suis remis à parler. J'ai fait des rencontres. J'étais loin d'imaginer qu'il y avait tant de cabots parmi mes collègues. J'ai appris des mots nouveaux et des races nouvelles. J'ai baragouiné des tas de conneries et j'ai partagé des sacs de croquettes à pamplune à la haie. J'ai sympathisé avec des gars que je comprenais que couic à ce qu'ils disaient, que je situais que rapport à leur plaque, mais qui me ressemblaient, qui étaient moins seuls que ce qu'ils en donnaient l'air. Les autres, ils ont leur bahut, leur cargaison, leur planning et leur stress. Nous, on a tout ça. Et puis un chien encore en plus. Lui aussi, il a fait des rencontres. J'ai même une photo d'un de ses petits dans la boîte à gants, en Moldavie qu'il est. Avec le collègue, on s'était juré qu'on s'en connaîtrait si un jour on les envoyait pisser au même endroit. Mais ça s'est jamais trouvé comme ça. Bah. Grâce à lui, j'ai rencontré Bernard, qui a perdu un fils du même âge que le nôtre. Lui, sa femme l'a quitté par-dessus le marché. Il a essayé de se foutre en l'air 2 fois, et puis en fin de compte, il s'est remarié. Comme il dit, ça revient à peu près au même, sauf que ça lui fait plus d'emmerdement. Quand on se trouve la nuit sur la radio, on se parle. Enfin, surtout lui. Lui, c'est un bavard. Et il sait y faire pour mélanger les blagues et le reste. Et en plus, c'est un Béarnais, il a un bel accent. On se parle et après, tout ce qu'il m'a dit, ça me tient en veille pendant très longtemps. Nanar 64. Un ami. Grâce à mon chien, j'ai cessé de me bloquer la mâchoire et j'ai repris goût à la route. Pause pipi oblige, j'ai même découvert des coins ici ou là où il aurait fait bon vivre. Grâce à lui, qui avait été abandonné et qui m'avait attendu sagement la première nuit, qui n'avait pas douté une seule minute que j'allais revenir le chercher et qui maintenant comptait sur moi pour son bien-être, j'ai été mieux. Je ne dis pas heureux, je dis mieux. C'est quelque chose ou quelqu'un comme ça qui a manqué à ma femme. Je roule toujours. Il faut que je lui trouve un bel endroit, ensoleillé et avec du panorama. Je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais souvenir. Ludovic devait avoir dans les 11 ou 12 ans, maigrichon, blanc comme un cachet d'aspirine, tout le temps fourré dans les jupes de sa mère, pleurnichant au moindre effort, manquant l'école, dispensé de gymnastique, sans arrêt après ses bandes dessinées et ses jeux vidéo. Enfin, pas vraiment un gamin, quoi. Un soir, qui n'était pas fait comme les autres, j'ai débrayé. J'ai attrapé le poignet de ma femme et je l'ai forcé à se tourner vers son petit souffreteux. « C'est pas possible, Nadine! C'est pas possible !» J'ai gueulé. « Il va pas rester assis comme ça jusqu'à notre mort, si ? Il faut qu'il devienne un homme !»« Mon Dieu ! Je ne demande pas de courir le marathon, enfin, quand même !»« Il va pas passer le reste de sa vie à lire des bêtises et empiler des briques sur un écran de télé, merde !» Ma femme paniquait. Et le petit s'est redressé en posant sa manette de jeu. « Mon Ludo, je dis pas ça pour t'embêter, mais à ton âge, il faut sortir. Il faut faire enrager tes vieux, il faut bricoler une mobilette et regarder les filles, je sais pas, moi. Mais il y a rien qui t'apprendra la vie par ici. Il faut éteindre, là, mon gars. Il faut me débrancher tout ça. Je les regarde, les filles, » qui m'a répondu en souriant. « Mais il suffit pas de les regarder, bon sang. Il faut leur parler aussi. » « Ne t'énerve pas, Jean, » suppliait ma femme. « Ne t'énerve pas. »« Je m'énerve pas. »« Si, tu t'énerves. »« Et maintenant, tu t'arrêtes tout de suite ou ça va lui déclencher une crise. »«
Une crise, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries encore ? Je crache des poils, peut-être ?»«
Arrête. C'est le stress, tu sais bien. »«
Le stress, mon cul. C'est toi qui nous le rend comme ça à force de nous le couver. »«
C'est toi qui nous l'empêche de grandir pour garder ton poupon. »
Sa mère s'était mise à pleurer. Elle pleurait facilement.
Pendant la nuit, il a toussé et s'est ventilé 4 fois. Je dors du côté du mur. J'aurais pu ne rien entendre. Le lendemain, c'était un dimanche. Elle est venue me trouver au cabanon. Mercredi, il a rendez-vous à Necker pour sa visite. Ce mois-ci, c'est toi qui l'emmèneras. Comme ça, tu lui demanderas un Robespierre. Quand est-ce qu'il pourra reprendre l'entraînement et traîner dans les cafés? D'accord? Mercredi, je travaille.
Non, Kama fait. Tu ne travailleras pas parce que t'as ton gamin qui va à l'hôpital et que tu l'accompagnes.
La façon qu'elle m'a regardé, j'ai pas protesté. En plus, je travaillais pas ce mercredi-là. C'était l'ouverture de la pêche et je le savais qu'elle le savait aussi.
Tiens, là. C'est pas mal. Cette petite colline là-bas. Mon chien, c'était pas un chien, c'était une concierge. Il était toujours assis bien droit, les pattes avant alignées sur le tableau de bord et à regarder la route.
Des fois, il se mettait à gueuler, tu ne savais même pas pourquoi. Il y avait quelque chose au loin qui lui plaisait pas et te réglementait tout ça depuis son poste de surveillance. Qu'est-ce qui m'aura cassé les oreilles quand j'y pense? Les gens, ils me demandaient « Mais vous avez un coyote pour les radars ?»«
Oh, ma foi, oui !» que je leur répondais « Un fameux !» Et puis, sur ventouse encore. Alors, une colline, tu penses, hein? C'est le minimum. Bien sûr. J'ai pas osé la ramener.
J'avais été trop impressionné par les autres gamins dans la salle d'attente et après, par tous les examens qu'ils imposaient à mon Ludo. À un moment, j'ai même eu envie de leur dire « Bon, hé, c'est bon, là!
Vous voyez bien qu'il en peut plus! C'est pour l'humilier ou quoi ?»
À la fin, ils l'ont installé dans une espèce de cabine en verre. Ils lui ont demandé de souffler dans des tuyaux biscornus jusqu'à ce qu'il tourne de l'œil. C'était pour lire son souffle sur une courbe d'ordinateur. Comme pour les battements d'un cœur. J'étais assis sur un tabouret et je lui gardais son blouson. Pendant qu'une infirmière changeait les tuyaux, je lui envoyais des petits signes d'encouragement. Ah, c'était pas vraiment une compétition, mais bon, il était courageux quand même. Ensuite, il recommençait à leur obéir, et moi je regardais tous ces écrans pour essayer d'y comprendre quelque chose. l'explication de ce que notre vie était devenue. Pourquoi toutes ces nuits blanches? Pourquoi l'angoisse? Pourquoi mon fils était toujours le plus petit de sa classe et pourquoi sa mère ne m'aimait plus comme avant? Hein? Pourquoi? Pourquoi nous? Mais tous ces chiffres dans tous les sens, bien sûr, j'y comprenais rien.
J'ai su qu'elle avait parlé au docteur avant la consultation parce qu'à un moment, il s'est retourné vers moi et il m'a dit comme ça, dans un petit sourire de curé. « Alors, monsieur Monatti, il semblerait que vous soyez un peu... » Il a fait semblant de chercher son mot. « Un peu contrarié par le comportement de votre fils dans la vie quotidienne, n'est-ce pas ?»
J'ai bafouillé.
« Vous le trouvez trop mou ?»«
Pardon ?»«
Abolique ? Indolent ? Apathique ?»
J'avais chaud. Je comprenais rien à ce qui me jactait.
« C'est sa mère qui vous a parlé, c'est ça ?»«
Écoutez, docteur, je ne sais pas ce qu'elle vous a dit au juste, mais moi, tout ce que je veux, c'est une vie normale pour mon gamin. »
Une vie normale, vous comprenez?
Je ne crois pas que ça lui rende service, cette façon qu'elle a d'être toujours aux petits soins pour lui. Je sais bien qu'il n'est pas en bonne santé, mais je me demande si de le laisser confiné comme ça, chez nous, comme dans une étuve, pour ainsi dire, ça ne le maintiendrait pas dans un état de faiblesse.
Je vois, monsieur Monatti, je vois.
Je vois très bien ce qui vous préoccupe, et hélas, je serais bien en peine de vous rassurer. Cependant, je vous propose de vous prêter une sorte de petit test, vous aussi. Y consentiriez-vous?
Pire qu'un curé, un archevêque. Ludovic me regardait. Bien sûr, j'ai répondu. Il m'a demandé d'ôter ma veste. Il s'est levé, il a été chercher une paire de ciseaux derrière ses ordinateurs, il a découpé une large bande de sparadrap et il me l'a collé sur la bouche. Ça m'a déplu. Encore une chance que j'étais pas enrhumé ce jour-là. Ensuite, il a quitté la pièce pendant un long moment et Ludo et moi, on s'est retrouvés tout seuls comme des cons. Que je faisais en marchant comme un pingouin. Il rigolait. Quand il se mettait à plisser les yeux comme ça, c'était sa mère que je voyais. Nadine, quand elle était plus jeune. Ah, la même petite gueule d'amour. Le même petit museau pointu. Le docteur est revenu avec une paille en plastique jaune. Une paille de gosse pour boire des menthes à l'eau. Avec une lame de bistouri, il a fait un trou minuscule devant ma bouche et il a glissé la paille dans le sparadrap et il m'a demandé si je pouvais respirer. J'ai hoché la tête. Après, avec une aiguille de seringue, il a percé la paille à plusieurs endroits. Coup d'œil vers moi. Ça allait, pas de souci, il pouvait continuer son petit jeu à la con. Ensuite, il m'a collé un pince-nez et là, déjà, je me sentais plus si bien. Là, déjà... Je paniquais. Il s'est tourné vers le petit.
« Il s'appelle comment, ton père ?»«
Jean. Mais tout le monde l'appelle Jeannot. »«
Bien. »
Puis, se tournant vers moi. « Vous êtes prêt, Jeannot? Vous me suivez ?»« Bien entendu, interdiction formelle de toucher à mon petit dispositif. »«
Je peux compter sur vous, n'est-ce pas ?»
Je me suis garé. J'ai ouvert le coffre, j'ai pris ma pelle et j'ai calé mon chien mort à l'intérieur de mon blouson. Il faisait beau. J'ai remonté la fermeture éclair et on est partis tous les deux. On l'a suivi dans le couloir et il nous a demandé de l'attendre un instant. Mon Lulu et moi, on s'est regardés en secouant la tête. « Eh, mais c'est le docteur Maboule, ce gars-là, ou quoi ?» Enfin, lui, il secoue la tête, mais moi, non. Et moi, je ne pouvais pas. J'ai juste levé les yeux au ciel et rien que ça, ça m'a pris plus de souffle que j'aurais pensé. Après, j'ai plus bougé d'un millimètre. Robesti est revenu. Il avait enlevé sa blouse et il sautillait comme un gamin en poussant du pied un vieux ballon de foot. Il m'a lancé comme ça. « Allez, Jeannot, allez, la passe !» Pas une seconde, j'espérais toucher ce foutu ballon. Pas une seconde. Je me dandinais un peu, mais je me penchais le moins possible. Et il fallait que la paille reste bien horizontale. Il fallait pas que je bouge la tête trop vite et surtout pas de gauche à droite ou de haut en bas, sinon j'aurais plus assez d'air. J'essayais pourtant. « Alors, Jeannot, hé, qu'est-ce que tu fous, vieux ?» Je ne le reconnaissais pas. Lui, si fier tout à l'heure derrière son bureau, et là maintenant qui me tutoyait en bondissant comme un lapin. « Ah, je te demande pas de marquer un but, mais enfin, merde, quoi, une petite passe, tout de même !» La paille que je m'interdisais de recracher, le manque d'air plus l'énervement de ne pas réussir à toucher cette maudite balle, j'ai commencé à perdre les pédales. J'ai essayé de me calmer,
mais je sentais que j'allais crever. « Non, monsieur Monatti, non !»
Et tout ce que j'ai trouvé à faire pour ne pas arracher cette saloperie de pansement, ou plutôt pour ne pas perdre la face devant mon gamin, ça a été de me laisser tomber sur le sol, de me rouler en boule et de rester immobile le plus longtemps possible, front contre les genoux et les bras renfermés au-dessus de ma tête pour me protéger du monde. Que personne me regarde, que personne me parle, que personne me touche, qu'on me laisse faire le mort le plus longtemps possible pour que je puisse recommencer à vivre. Il m'a tendu la main et m'a hissé jusqu'à lui pendant que je me débarrassais de son merdier. « Vous voyez, Jean, ce que vous venez de vivre, là, c'est ça. » Il m'indiquait la machine. Ce petit écran lumineux où tout ce que Ludovic leur avait donné de meilleur en soufflant de toutes ses forces apparaissait sous la forme de minuscules pattes de mouche éparpillées dans un graphique qui était 1000 fois trop grand pour elles. Je me rendais pas compte que ça grimperait comme ça. Je me sers de ma pelle comme d'un bâton de marche et certains mots, je me les redis tout haut. « Alors, Jeannot, la pince ?»«
Non, monsieur Monatti, non !»
Le soir, je suis allé voir mon garçon dans sa chambre. Il était dans son lit. Il lisait un magazine. J'ai tiré la chaise dessous son bureau. « Ça va ?»«
Oui. »«
Qu'est-ce que tu dis de beau ?» Il me montre la couverture. « C'est bien ?»«
Oui. »
« Bon, je voyais bien qu'il n'avait pas trop envie de discuter. Qu'il était fatigué et qu'il avait surtout envie de lire son truc sur les 10 énigmes du système solaire bien tranquille.
« T'as pris ta ventoline ?»« Oui. »«
Bon, ben, tout va bien alors ?»«
Oui. »«
Je t'embête là, non ? Je t'empêche de lire, c'est ça ?» Il m'a regardé dans les yeux.
« Oui, »
qu'il m'a dit en faisant un grand sourire, « tu m'embêtes un peu. » Ah, quand j'y pense. Comme il était gentil, ce gamin. Tellement, tellement gentil. Au moment de quitter sa chambre, j'ai pas pu m'empêcher de lui demander « comment que tu fais, toi ?»«
Comment je fais quoi ?»
Pour respirer. Il a baissé son magazine sur son ventre et il a réfléchi pour me donner la seule bonne réponse possible. Je me concentre. Je lui ai souhaité une bonne nuit et au moment où je fermais sa porte, je l'ai entendu qui ricanait.
« Bonne nuit, Ronaldo !»
Et de se marrer comme ça, un tout petit peu et en douce, juste pour se moquer de son vieux papa, eh bien ça l'a à moitié étouffé. Là, c'était parfait. Un genre de petit promontoire orienté sud-sud-ouest. Là, il aurait de quoi faire, mon petit caquet. J'ai creusé. Je lui ai laissé mon blouson. J'ai dépiauté 2 morceaux de sucre que j'avais récupérés dans un self et je les ai glissés dans la poche intérieure. Pour la route. Le trou a été vite rebouché. C'était pas un gros chien. Je me suis assis près de lui et, d'un coup, je me suis senti seul au monde. J'ai fumé une cigarette, et puis une deuxième, et puis une troisième. Après, je me suis servi de ma pelle pour m'aider à me relever. Tous les médecins nous répétaient qu'il fallait envoyer Ludovic au bon air, qu'il devait poursuivre ses études à la montagne et loin de nous. On a eu du mal à se décider, surtout ma femme. Finalement, on l'a inscrit dans un genre de lycée-sanatorium dans les Pyrénées. Ça n'a pas posé de problème. Nadine disait que c'était grâce à son dossier scolaire. À mon avis, c'était surtout à cause de son dossier médical. Mais bon, peu importe, il était content de partir. Il avait tout juste 15 ans. Il venait d'entrer en seconde et c'était un môme adorable. Je dis pas ça parce que c'était le mien. Je le dis parce que c'est la vérité. Est-ce que c'était dans son caractère ou est-ce que c'était la maladie qui l'avait rendu comme ça ? J'en sais rien, mais je le répète une dernière fois. C'était un môme adorable. Tout petit pour son âge. Mais déjà un grand. Grand monsieur. Ça s'est passé avant les vacances de Pâques. On attendait son retour avec impatience.
Sa mère tournait en rond et moi j'avais posé des jours. On devait l'emmener au Futuroscope avant de filer chez ses cousins Partenay. J'étais là quand le téléphone a sonné. La direction du lycée nous a annoncé que notre fils, Monati Ludovic, avait eu une crise pendant la récréation et que l'administration avait immédiatement contacté les secours, mais que le jeune était décédé pendant son transfert vers le CHU le plus proche. Le plus dur, c'était de vider sa chambre là-bas. Il a fallu tout récupérer et tout mettre dans des sacs poubelles. Ses vêtements propres et ses vêtements sales. Ses jeux, ses livres, les affiches qu'il avait accrochées autour de son lit, ses cahiers, ses secrets, toutes ses boîtes de médicaments. Nadine ne bronchait pas. La seule chose qu'elle exigeait, c'était de ne pas croiser le directeur. Il y avait dans cette triste affaire, comme il disait, des détails qu'elle n'arrivait pas à encaisser. Un garçon de 15 ans, ça ne mourait pas comme ça dans une cour de récréation. Devant l'internat, elle s'est tournée vers moi. « Ne reste donc pas dans mes pattes. Va m'attendre dans la voiture, je préfère être seule. » Elle n'a jamais eu à me le redire, et pourtant, depuis ce jour-là, j'ai toujours eu l'impression d'être dans ses pattes. Ça roule mal. J'avais pas prévu les embouteillages. J'ai pas l'habitude de rouler dans ces heures-là. J'ai pas l'habitude de me sentir pris au piège de la circulation. Des gens klaxonnent et mon chien me manque. Demain, je remonterai dans ma cabine et il y aura son odeur. Il me faudra du temps pour m'en déshabituer. Combien de temps? Combien de temps encore? Combien de temps avant d'arrêter de regarder de son côté, de lui demander si tout va bien, et de tendre la main vers la place des morts, hein? Combien de temps tout ça? J'ai dit, c'est moi. Et je suis allé dans la cuisine m'ouvrir une bière. J'allais descendre quand on m'a appelé. Elle était assise dans le salon. Elle n'avait pas son tablier, son manteau était posé sur ses genoux. Comme je m'inquiétais, j'ai appelé à ton travail et Eriko m'a dit pour ton chien. Ah. J'avais déjà tourné les talons quand elle a ajouté.
Tu ne veux pas marcher un peu? Si, viens. Remets donc tes chaussures et viens. Je t'attends.
On est sortis.
J'ai fermé la maison. La nuit tombait et on s'est donné la main.